2 février, présentation de Jésus au Temple ou la Chandeleur. Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie. Bienvenue dans l'émission Magnificat, l'émission de l'association Marie de Nazareth. Bonjour Justina.
Bonjour.
Nous parlerons aujourd'hui de la Septante et le texte massorétique, mais vous nous en ferez pas un commentaire, n'est-ce pas?
On va voir.
Puis nous parlerons aujourd'hui d'une œuvre, le feuilleton français. Notre invité Benoît Apté. Bonjour Benoît.
Bonjour France.
Nous évoquerons ensemble en deuxième partie d'émission ce magnifique projet, alors moi je suis fan, hein, dans lequel vous vous êtes lancée. Alors Justina, sans attendre, je vous laisse la parole.
Eh bien, donc aujourd'hui nous allons lire la lecture qui se fait dans les églises catholiques romaines de rite Paul VI. Et effectivement, on fête la Chandeleur, ou ce qu'on appelle aussi la Sainte Rencontre dans la tradition orthodoxe.
C'est très joli, la Sainte Rencontre.
Oui. Et lorsque furent accomplis les jours pour leur purification, selon la loi de Moïse, ils l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qu'il est écrit dans la loi du Seigneur, tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice suivant ce qui est dit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou de jeunes colombes. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint reposait sur lui. Et il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ Seigneur. Il vit donc au temple poussé par l'Esprit quand les parents apportèrent le petit Jésus pour accomplir les prescriptions de la loi à son égard. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, souverain maître, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple d'Israël. » Donc, bonjour chers auditeurs, le texte lu aujourd'hui m'incite non pas à vous parler vraiment du personnage de Siméon, mais de l'histoire des textes vétérostémentaires, plus précisément des traductions des livres de l'Ancien Testament. En fait, la traduction présumée serait plus ancienne que le dit original hébraïque. Et oui, il se peut qu'une traduction est plus ancienne que l'original. Je m'explique. Le personnage mentionné dans notre texte du jour, Siméon, est connu dans la tradition orale chrétienne, même s'il n'apparaît qu'une fois dans le récit biblique canonique. Les apocryphes mentionnent que Siméon a participé à la traduction du Tanakh en grec pour les juifs hellénophones de la diaspora, la fameuse Septante, qui a été traduite durant la période entre le 3e et le 1er siècle avant Jésus-Christ.
Alors juste une petite question, pourquoi est-ce que ça porte le nom de Septante ?
Puisqu'il y aurait 70 sages juifs qui ont été appelés à faire cette traduction, et justement, la légende raconte que ce Siméon en faisait partie.
Très bien.
Et c'est même mentionné dans l'évangile. Et la légende apocryphe raconte que Siméon avait un doute à propos du mot employé lors de la traduction de la prophétie d'Isaïe, chapitre 7, verset 14, que la Vierge va concevoir et enfanter le Fils. Il voulait traduire la Vierge comme jeune femme et non la Vierge. Et à ce moment, paraît-il, un ange l'arrêta et lui a promis de vivre jusqu'au moment où Siméon verrait cela par lui-même. Et on voit les traces de cette légende, en tout cas dans l'Évangile. Je ne saurais vous dire si on peut bien faire une affirmation historique reconnue par les sciences à propos de la participation de Siméon dans cette affaire, mais dans tous les cas, la Septante existe bel et bien. Et dans la Septante, on voit bien apparaître dans la prophétie d'Ésaïe le mot parthénos, vierge, et non jeune femme, contrairement au texte hébraïque qui est en vigueur actuellement dans le judaïsme. Le hic est que le texte hébraïque utilisé aujourd'hui, ce qu'on appelle aussi le texte massorétique, dans le judaïsme a subi une révision finale environ entre le 8e et le 10e siècle après Jésus-Christ. Et les savants juifs ont procédé à une unification de standards de textes et ont mis en place un système pour désigner les voyelles dans l'alphabet hébreu, qui n'existait pas avant. Alors, je ne veux en aucun cas parler de complot ni de falsification de ce texte, mais il est clair que, premièrement, le corpus de textes massorétiques arrive après la Septante suite à des nombreux siècles de relations tendues avec les chrétiens et dans un esprit tout à fait légitime de vouloir préserver son identité ethnico-religieuse et tout simplement dans la volonté de survivre. Deuxièmement, les trouvailles archéologiques des écrits de la mer morte, autrement dit les trouvailles de Qumran, prouvent l'absence de canons bibliques figés au temps de Jésus et se montrent même en faveur de la Septante. Elle contient un canon plus large et plus de détails que le texte massorétique. Par exemple, les livres dits déutéroécanoniques de la Septante sont ouvertement cités dans le Nouveau Testament. Et aujourd'hui, la Septante parle bien de la Vierge, tandis que le texte massorétique emploie le mot Alma qui contient un double sens, parce qu'à la fois il peut vouloir dire vierge, mais au même titre jeune femme. C'est ainsi que nous retrouvons aujourd'hui avec une traduction plus ancienne que le présumé original et un canon vétérostémentaire différent entre les chrétiens apostoliques et les protestants qui ont pris la décision de suivre le canon révisé finalement. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe dans la vie, il y a des petites curiosités.
Merci beaucoup, Justina. Alors à présent, nous allons écouter le chapitre zéro de ce feuilleton français lu par Pascal, enfin je dirais pas lu, récité par Pascal Ruiz. Nous allons l'écouter à présent.
Chapitre zéro. En guise de prologue, où les quatre visions successives de l'archevêque de Paris, Monseigneur Maurice de Sully, maître d'ouvrage de la cathédrale Notre-Dame. 1. Un mutisme inquiétant. Qui eût passé les portes de la ville ce matin-là, sans avoir connaissance de ce qui devait s'y produire, eût été fort surpris de ne croiser personne sur sa route. Mettons-nous un instant dans la peau de l'innocent personnage. Sa stupeur se serait bientôt muée en effroi. Que s'imaginer face à ce dédale silencieux, sinon cela, qu'une horde sanguinaire s'apprêtait à fondre sur la capitale, qu'on la livrait sans résistance à la prédation des ravisseurs, à la haine des mécréants? Comment se leurrer? Paris allait être assiégé. La France redevenait une proie. Tout comme Attila en son temps, Frédéric Barberousse avait passé le Rhin en compagnie d'une armée considérable. Roi de Germanie et d'Italie, comte palatin de Bourgogne, duc de Souabe et d'Alsace, l'impétueux représentant de la maison Hohenstaufen s'apprêtait à déloger du trône de Saint-Pierre le pape Alexandre en butte à l'autorité impériale. Au nom du droit romain, au risque d'être excommunié, Barberousse sillonna ses provinces en compagnie de sa créature, Anaclet, revêtue des habits pontificaux. Le fracas provoqué par cette expédition meurtrière avait soulevé des nuages de fumée traversant l'Europe entière. Dressées contre l'autocrate, les citadelles lombardes et piémontaises tombèrent sur son passage comme châteaux de cartes. Rivoli, Milan, Bergame, Mantoue et Parme furent mis à sac. L'assaut final, livré dans Rome au petit jour, en fit trembler les murs. La terreur paralysa le plus grand nombre. Barberousse était un vaillant soldat de noble race. Ici ou là, on redoutait la violence d'un tel parangon plus qu'on s'indignait de ses crimes. Il brandissait la croix. Il agissait au nom de Dieu. Son aura était extraordinaire. Sa majesté, incontestable. L'ombre de Charlemagne se mêlait à la sienne. Ne venait-il pas rétablir la justice et la loi en imposant les siennes par la force? N'était-il pas le glaive de la chrétienté? Ne devait-on pas le suivre et l'acclamer? Ces questions-là hantaient les cœurs et les consciences d'une majorité silencieuse. La rumeur en disait plus. Elle semblait invraisemblable. La cause officielle de cette campagne furieuse n'aurait été qu'un prétexte. Chassé, traqué, exilé, le pape Alexandre n'était peut-être pas parti du Vatican les mains vides. On parlerait longtemps de cette poursuite endiablée qu'on lui fit. Suivi d'une poignée de fidèles, le pasteur suprême chercha vainement 3 mois durant la sécurité dans les monts et les bois. Malgré son incognito, les limiers et les pisteurs de l'empereur le retrouvaient toujours où qu'il allât. Pourquoi cet acharnement? sa tiare et sa férule lui avaient été arrachées, fallait-il vraiment que le cadavre du piètre vicaire fût branché pour que la victoire de ses adversaires devînt irrévocable ?
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors bonjour Benoît.
Bonjour France.
Vous êtes ancien élève de l'École nationale des arts décoratifs. Vous avez travaillé d'abord aux côtés de Patrice de Ramel quand ce dernier fonde Ressources, marchand de couleurs et décorations. C'est au cours Jean-Laurent Cochet, dernier grand maître de théâtre, que vous avez découvert 10 ans plus tard votre vocation pour l'écriture, la dramaturgie et l'art du dialogue. Vous êtes auteur de nombreux livres, alors je ne vais pas tous les citer, pardonnez-moi, mais j'invite nos auditeurs à vous découvrir davantage en allant sur le site du Feuilleton français dont nous allons parler aujourd'hui. Mais vous avez quand même publié dans de grandes maisons comme Flammarion.
Tout à fait.
C'est le rêve de certains que je connais, que j'ai reçu ici.
Et ce fut le mien.
XO, les éditions Rue de Sèvres. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler du Feuilleton français. Comme je disais tout à l'heure, c'est un très beau projet. Vous dites que vous souhaitez, par ces publications, papier, numérique, audio, écrire une Iliade de l'histoire de France. Alors, pour avoir découvert une partie de cette publication, je me suis régalée. Je vous le disais en préparant cette émission, vraiment, c'était un vrai délice. Pour ceux qui aiment notre langue, et je sais que les auditeurs de Radio Courtoisie seront très touchés de vous lire. Alors, ce n'est pas une publication ordinaire. Et puis en plus, vous avez besoin de nous tous pour poursuivre cette aventure. Mais quelle est cette aventure du Feuilleton français ?
Ah, une aventure que j'ai méditée en vérité pendant près de 10 ans.
Oui.
C'est-à-dire que là, le Feuilleton français est ouvert depuis le 8 décembre, puisqu'il a ouvert solennellement tout en même temps que Notre-Dame réouvrait ses portes. Mais pendant 10 ans, j'ai construit tous les scénarios de ces histoires que vous verrez publiées au Feuilleton français de mois en mois, d'année en année. Voilà. Effectivement, l'ambition du Feuilleton français, c'est de créer une Iliade. C'est-à-dire, à travers une suite, une succession d'épopées, de chefs-d'œuvre, au sens où les compagnons l'entendent, de chanter voilà, le poème de l'histoire, de siècle en siècle. Donc vous verrez ainsi au Feuilleton français, par exemple, paraître prochainement le Lys et l'Hermine, qui se présente comme étant la suite des Rois maudits. Vous aurez également Flamberge, une épopée de cap et d'épée qui couvrira tout le règne de Louis XIII, voilà, et quantité d'autres histoires, et dont des histoires écrites également pour la jeunesse.
Ça, c'est une très bonne chose. Très important. On en reparlera un petit peu tout à l'heure.
Avec plaisir.
Mais commençons avec Fileur de pierre. Déjà, c'est très joli, Fileur de pierre. Et ça nous permet de connaître la genèse de la construction de Notre-Dame.
Tout à fait. Fileur de pierre, ou les compagnons de Notre-Dame, d'ailleurs, tel est le titre dans son intégralité.
On va juste préciser que si vous êtes là aujourd'hui, c'est grâce à un compagnon de Notre-Dame.
Un compagnon et un ami.
Voilà. Et oui, un ami commun, on peut dire. Oui, alors donc Fileur de pierre.
Romain Renaud, rendons-lui hommage.
Notre charpentier. Voilà.
Ouais.
Alors, Fileur de pierre.
Oui, Fileur de pierre. Fileur de pierre ou les compagnons de Notre-Dame, eh bien, n'est rien de moins que l'épopée historique qui va vous raconter, depuis sa genèse, toute l'histoire de l'édification de Notre-Dame de Paris. Hein. Donc, c'est une œuvre, osons le dire, gigantesque, monumentale, parce qu'elle va déjà s'étaler sur 200 années d'histoire. Elle sera découpée en 3 cycles. Hein. Vous avez donc le premier cycle, là, qui vient de commencer à paraître, qui s'intitule « En cette vallée de larmes », et qui, lui, va de l'an 1131 jusqu'à l'an 1163, moment où est posée la première pierre de Notre-Dame. Et on verra
par Alexandre III, c'est ça?
Par Alexandre.
Alors, est-ce que c'est vrai?
Mais bien sûr que c'est vrai. L'histoire est trop belle pour être fausse. C'est extraordinaire. Oui, parce que, enfin, il faut le rappeler à nos auditeurs, la scène est biblique. Hein, vous avez, elle redonne d'ailleurs une toute autre image du Moyen-Âge que celle qu'on a installée dans la mémoire collective. Oui. Bah oui, parce que On vous présente toujours les rois comme étant des égorgeurs et les papes comme des Borgia. Mmh. Et là, vous avez un roi de France, Louis VII, en l'occurrence.
Dont on parle peu, finalement, quand on parle
d'un roi. Dont on ne parle pas du tout.
Il s'appelait le Pieux.
Le jeune d'abord, et le pieux ensuite. Tout à fait. Et son histoire est absolument édifiante. Mais, et moi, elle m'a tellement ému que j'ai vraiment souhaité n'en rien manquer.
Oui. Hein.
C'est pour ça que je vous dis, ce premier cycle, en cette vallée de larmes, qui est la genèse de l'histoire, oui. c'est une passion. Voilà. C'est une passion lente et douloureuse, dont les stations, d'ailleurs, pourraient même avoir les noms suivants. Un naufrage, un cochon, un bûcher, une déroute, un divorce.
Est-ce que vous vous êtes permis des petites, j'appelle ça des promenades littéraires, où vous êtes vraiment attaché à l'histoire ?
Écoutez, je vais avoir la prétention de vous dire que ce que j'ai imaginé, on me l'a révélé. Vous savez, je dis ça pour faire écho à la fameuse phrase de Jules Barbey de Rivoli qui disait « Là où les historiens s'arrêtent, ne comprenant plus rien, les poètes apparaissent et devinent. »
C'est très beau. Alors, j'ai vu sur Dailymotion, dans une interview, que vous parliez de Notre-Dame. Pourquoi Notre-Dame a été bâtie ?
Ah, ben, c'est le cœur du sujet. Alors, c'est extraordinaire parce que effectivement, tout le monde parle de Notre-Dame, surtout en ce moment, et personne ne peut répondre à cette question. Mmh. Elle se demandait même si on se l'est posée.
Oui.
Et
c'était très intéressant ce que vous avez dit.
Bah, écoutez,
c'était le contexte, c'est ça ?
C'est tout un contexte. Mais vous savez, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que en 2019. Je suis obligé de vous rappeler les faits parce que c'est quand même très émouvant. Je m'en allais à la montagne, à Chamonix, en l'occurrence, enfin à Argentière, très exactement, avec mon épouse. Je suis dans le train, j'écris, puisque c'est mon métier. Nous sommes le 15 avril 2019, et les derniers mots que j'écris dans le train avant d'en sortir sont les suivants : et le feu prit si fort qu'il brûla la forêt. Et quelques instants plus tard, je me retrouve en compagnie de la marraine de mon épouse, qui est l'héritière d'une famille de guides en haute montagne, et qui me montre face à elle un pan de roche calciné en me disant « Regarde, là, c'est étonnant, Benoît. Figure-toi que l'an passé, il y avait une station, là, alpestre, qui a flambé. » Et au moment où elle me dit ça, j'ai un ami pompier de Paris qui m'envoie les images avec le clocher de Notre-Dame s'embrasant. Et si vous voulez, c'est étonnant parce que ça a pris un peu de temps, mais quelques mois plus tard, j'étais chez moi, et j'ai eu comme une révélation, c'est-à-dire que je me suis dit, mais bien sûr, voilà l'histoire qu'il faut écrire, et voilà l'histoire qui sera la pierre angulaire du feuilleton français, son vaisseau amiral, fileur de pierre. Je vais raconter l'histoire de l'édification de Notre-Dame de Paris. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai fait une enquête, voilà. Je me suis penché sur l'histoire de Notre-Dame, sur celle de ses protagonistes principaux. Et justement, à l'image de ce poète qui fait des métaphores, c'est-à-dire qui crée des liens entre des choses qui apparemment n'en ont pas, pour créer un sens supérieur, j'ai fait des découvertes extraordinaires. C'est pour ça que je vous parlais justement de ce naufrage, qui est celui de la Blanche Nef, qui est... Enfin, c'est le Titanic de l'époque, hein, du XIIe siècle, du Moyen-Âge, qui va, en fait, provoquer la guerre civile en Angleterre et l'avènement des Plantagenets. Ensuite, je vous parlais d'un cochon.
Oui.
Un cochon régicide. Ah, c'est extraordinaire. Vraiment, c'est une histoire, vous voyez, un Fabio du Moyen-Âge, quoi. Sauf que c'est la réalité et elle est éminemment dramatique puisque c'est le prince Philippe qui est paré de toutes les qualités et qui va mourir de façon parfaitement inattendue. Son cheval, alors qu'il défile avec l'host royal, un cochon traverse la voie, son cheval rue, le renverse et
il meurt.
Et donc ça va provoquer le mariage de son frère cadet, qui n'aurait jamais dû régner, le futur Louis VII, avec Aliénor d'Aquitaine. Voilà. Et ce mariage va provoquer une succession de catastrophes qui vont conduire à un incendie. Donc il y a déjà un incendie dans l'histoire de Notre-Dame. Mmh. Ensuite, à la deuxième croisade, qui sera un fiasco.
Oui.
Et ensuite, au divorce. C'est-à-dire que, voilà, le contexte est le suivant, c'est que quand Louis VII décide de faire construire Notre-Dame de Paris, il est non seulement la risée du monde, mais en plus de ça, la France se retrouve dépossédée de ses plus riches apanages qu'il avait acquis par son mariage avec Aliénor. Et apanages qui vont faire le bénéfice de l'Angleterre qui sort de la guerre civile avec les Plantagenets. Voilà. Bon, bref, le royaume de France va se trouver pris en tenaille entre ces deux puissances montantes, celle des Plantagenets et celle de Hohenstaufen avec Barberousse. Et donc, dans un geste d'abandon, mais qui est un cri de détresse en vérité, il va appeler, sous l'égide de Maurice de Sully, qui est non seulement l'évêque de Paris, mais son conducteur, son directeur spirituel, l'intercession de la Sainte Vierge pour sauver le royaume. Hein? C'est-à-dire que l'histoire commence, le royaume de France est au bord du gouffre, et quand elle s'achève, elle devient le soleil de la chrétienté.
Et on peut faire le parallèle avec les temps actuels, la reconstruction de Notre-Dame. Est-ce le début de quelque chose ?
Ah ben en tout cas, moi, c'est ce que je souhaite de tout mon cœur. C'est-à-dire que c'est la première phrase qui m'est venue à l'esprit quand j'ai commencé à penser au fileur de pierre, c'est la fatalité peut être le marchepied de la providence. C'est-à-dire que je me suis dit, mais avec l'émotion universelle qui a provoqué l'incendie, en fait, on va pouvoir non seulement parler du Moyen-Âge, mais on va même pouvoir parler de la Sainte Vierge et du rôle extraordinaire qu'elle a joué dans l'histoire. Et ça, ce qui est fabuleux, c'est que avec tous les éléments, toute la matière que donne l'histoire même, et ensuite c'est cette matière sublimée par le génie poétique, on va pouvoir émouvoir ceux même qui n'ont pas l'ombre de la foi.
Enfin, bien sûr.
C'est ça le pari, c'est ça le défi. Ouais.
Alors, à partir de quel âge on peut proposer le feuilleton français ? Parce que nous disions hors antenne qu'il est important que nos jeunes lisent.
Ah oui, il est crucial qu'ils lisent.
Alors, ça s'adresse à partir de quel âge ? Admettons que ce soit de bons lecteurs quand même.
Ouais, pour des bons lecteurs, je pense qu'à partir de 14-15 ans, c'est possible. Vous voyez, les adolescents qui lisent Le Seigneur des Anneaux peuvent lire Fileur de pierre.
Donc, on peut l'offrir. Invitons nos auditeurs à s'abonner. Alors, dites-nous comment ça fonctionne.
Ah, c'est très simple.
Parce qu'on ne vous trouve pas en librairie.
Non. Le principe est un peu, si vous voulez, sur le modèle de la relation directe entre le producteur et le consommateur.
Oui. Hein.
C'est-à-dire que vous avez l'auteur.
On aime bien ça.
Voilà, on aime bien ça. Circuit court, pas d'intermédiaire, exactement. Donc, vous avez un site, lefeuilletonfrançais.fr, sur lequel vous allez vous rendre. Et là, vous verrez donc que l'histoire qui est mise en avant aujourd'hui, donc Fileur de pierre, vous pouvez choisir trois formats différents. Hein, papier, audio ou numérique.
Audio, puisque nous avons entendu Pascal Ruiz tout à l'heure.
Avec cette merveilleuse interprétation qu'il nous donne du texte. Quelle que soit la forme d'abonnement que vous choisirez, tous les mois, vous recevrez un épisode de l'histoire. C'est vraiment une séquence, hein, l'épisode.
Oui.
C'est, à savoir à peu près entre 70 et 80 pages. Voyez ça vaut pour 4 chapitres.
Oui.
L'abonnement lui-même dure sur 10 mois.
Mm-hmm. Très bien. Donc, le feuilleton français.
Lefeuilletonfrançais.fr. Tout attaché en minuscules.
Très bien. Vous pouvez me parler un petit peu de Pascal Ruiz ?
Bien sûr. Pascal, pareillement, je crois, et je ose le dire, est devenu un ami parce que...
C'est un grand quand même, il a travaillé avec Descrières, enfin...
Je ne voulais qu'un excellent comédien pour interpréter Fileur de pierre. Là encore, le miracle a fait que je l'ai rencontré, puisque de façon assez inattendue, il m'a fait la surprise, après que je lui ai envoyé un message, qu'il a une chaîne par le cœur sur YouTube, que j'ai découvert un peu par hasard, et j'ai tout de suite été très ému par son interprétation, je lui ai envoyé un message, et quelques jours plus tard, il me faisait l'amitié, le cadeau, de me livrer un petit extrait de Don Juan de Tolède, Mousquetaire du Roi, qui était mon premier roman chez Flammarion. Et là, c'était un bonheur parce que voilà, toutes les notes, si vous voulez, que j'avais en tête quand j'ai écrit ce texte étaient parfaitement restituées. Donc je me suis dit, voilà, c'est lui qu'il me faut. Et effectivement, c'est un très grand comédien qui a joué quantité de pièces et de classiques sur les planches, notamment aux côtés de Georges Descrières, vous l'avez dit, et de Jean-Laurent Cochet, entre autres.
Très bien, écoutez, merci beaucoup. J'ai encore une question parce que c'est quand même important. Combien coûte l'abonnement ?
Ah, il y a trois prix en fait pour le numérique.
Suivant ce qu'on demande.
Voilà, voilà. Pour le numérique, c'est 40 € pour 10 mois.
Oui.
Pour l'audio, c'est 45. Et c'est un peu plus cher pour le papier, simplement parce qu'il y a les frais d'envoi postaux.
Et puis, hein, le prix 75, du papier augmente tout le temps.
Ah oui, donc, alors, mais là, de toute façon, on ne pourra pas changer les prix, puisqu'il y a la loi du livre. Donc, le prix défini... voilà,
au départ, oui. J'ai juste une question. Lorsque on choisit la version papier, donc, on accumule petit à petit des livrets. Et après...
Après, on fournira, je pense, des coffrets, si vous voulez, d'accord, pour les ranger, voilà, oui, et qu'ils soient soigneusement présentés dans les
bibliothèques. Oui, parce que ce genre d'œuvre, ça se protège. Bon, merci beaucoup, Benoît.
Merci
C'était
à vous, France.
C'était très, très intéressant. On se tient à fond. Le feuilleton français... .fr. Bon vent, vous reviendrez nous parler peut-être de la suite, parce que ce genre de format, je suis sûre que ça appelle à d'autres projets.
Ah, mais d'autres, moult projets.
Très volontiers.
Avec
merci
joie.
Benoît, merci Justina.
Merci.
À la semaine prochaine avec Patrick Sbalquero.
Tout à fait.